Merci Emmanuel, bonjour à vous et bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 28 décembre, à mi-chemin exactement entre Noël et Nouvel An, au milieu d'une semaine dont le centre est partout et la circonférence nulle part, un milieu entre rien et tout, en proie peut-être à des idées noires. L'itinéraire de cette semaine nous a conduit de la sobriété à l'ivresse et de l'ivresse au remords, à la mauvaise conscience, au péché, au regret, à la culpabilité. Le remords ou l'autre nom de la gueule de bois, c'est Nietzsche qui le dit.
Pouvons-nous étouffer le vieux, le long remords qui vit, s'agite et se tortille?
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins qui vous accompagne du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et toutes les nuits ou quand vous voulez en téléchargement. Chaque semaine, on vous invite à déambuler autour d'un thème à la croisée des disciplines, philosophie, littérature, cinéma, musique. Et chaque jour, nous donnons la parole aux amoureux du savoir, aux gourmands de la pensée, aux férus de transmission, la crème de la crème à votre service, au creux de votre oreille. Bonjour Paolo Diorio.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Vous
Merci.
Êtes philosophe, directeur de recherche au CNRS, vous dirigez l'Institut des textes et manuscrits modernes et vous avez écrit Le voyage de Nietzsche à Sorrente, Genèse de la philosophie de l'esprit libre, un livre disponible aux éditions du CNRS. Vous préparez actuellement un livre sur l'éternel retour de l'identique chez Nietzsche. Et je disais que nous proposions à nos auditeurs la crème de la crème pour la déposer au creux de leur oreille. Et lui, à l'oreille, justement, c'est ce qui fait défaut pour Nietzsche. Nietzsche qui va nous accompagner au cours de cette émission, qui fait défaut non pas à Nietzsche, mais chez les penseurs en général, nous dit-il. Il écrit ceci dans Humain trop humain. On appartient à la populace tant que l'on fait toujours retomber la faute sur les autres. On est sur le chemin de la vérité tant que l'on ne rend responsable que soi-même. Mais le sage ne considère personne comme coupable, ni lui-même, ni les autres. Qui dit cela ? Épictète, il y a 1800 ans. On l'a entendu, mais on l'a oublié. Non, on ne l'a pas entendu et on ne l'a pas oublié. Il y a des choses que l'on n'oublie pas. Mais l'oreille faisait défaut pour entendre. L'oreille d'Épictète, sans doute. Il se l'est donc dit lui-même à l'oreille ? Parfaitement. La sagesse, c'est le murmure du solitaire sur la place tumultueuse.
Oui, absolument. C'est une vieille sagesse qu'on a oubliée. C'est-à-dire le fait que personne n'est coupable pour ses actions. C'est ce que Nietzsche nous dit à plusieurs reprises, en commençant justement par Humain trop humain, le livre dont vous avez cité un extrait, et en parlant d'Épictète, mais il pourrait parler aussi de toute une autre série de philosophes, de sages, qui ont considéré que les remords, finalement, n'a pas lieu d'exister. Parce que les remords, c'est comme la morsure du chien sur la pierre, effectivement.
C'est une expression de Nietzsche. Le remords est comme la morsure d'un chien contre la pierre, une bêtise.
Une bêtise. Bêtise pourquoi ? Parce que, en tant que philosophe, nous devons, retirer tout droit des citoyennetés au remords dans la République des sages. Parce que c'est un peu ce que Nietzsche préfigurait dans Humain trop humain. L'humanité doit passer d'un stade moral à un stade de sagesse. Et la sagesse est, entre autres, reconnaître que nous ne pouvons pas culpabiliser les autres pour leur action, que nous agissons toujours dans la nécessité, et donc nous ne sommes pas libres de choisir. Mais si nous ne sommes pas libres de choisir, nous ne sommes pas esclaves. Parce que ceux qui vous disent que vous êtes libres de choisir et de faire le mal ou les biens, finalement, après, vous rend coupable d'avoir choisi, dans certaines circonstances, le mal.
Si on n'est pas libre, on ne peut pas être coupable, en d'autres
non,
termes.
Non, effectivement. Et les mal, c'est bien sûr ceux qui ont décidé, ceux qui vous donnent cette liberté, ils ont décidé aussi ce qui est le mal, et finalement, ils vous rendent coupable d'une action que vous avez faite. Alors, Nietzsche, en tant restitué, c'est un de ses philosophèmes, c'est une des expressions préférées. Il entend restituer au monde l'innocence du devenir. Sa philosophie, c'est une philosophie de l'innocence, parce qu'il nous explique tout d'abord d'un point rigoureusement philosophique, en reprenant toute une tradition qui commence justement dans l'Antiquité et qui va jusqu'à lui, jusqu'à nos jours, nous explique que les libres arbitres n'existent pas. Ça peut paraître étonnant parce que nous avons été élevés dans une culture chrétienne, somme toute, et que les libres arbitres, quand même, est à la base de notre droit. Nous punissons en fonction du degré de responsabilité que nous attribuons à chacun. Donc il faudrait reformuler, si vous voulez, notre philosophie du droit pour pouvoir punir selon des principes qui ne soient pas liés directement à la liberté du criminel, hein, la liberté de choisir le bien ou le mal. Alors, mais par exemple, Nietzsche se réfère aussi à Spinoza ou à Schopenhauer. Il y a un passage dans la généalogie de la morale très célèbre où Nietzsche cite Spinoza et son idée du remords, de la morsure de la conscience, et que peut-être nous pourrions citer si vous nous...
Eh bien, écoutons-le tout de suite, interprété par Georges Clès.
Pendant bien longtemps, le malfaiteur sur qui tombait le châtiment, comme une parcelle de destinée, n'en éprouvait d'autre peine que s'il était victime d'une catastrophe imprévue, d'un phénomène terrifiant de la nature, d'un bloc de rocher qui roule et qui écrase tout sur son passage, sans qu'il y ait contre lui possibilité de lutte. Ce fait se présenta un jour à la conscience de Spinoza, au grand déplaisir de ses interprètes, Kuno Fischer entre autres, qui se sont méthodiquement efforcés de le mal comprendre à cet endroit. Alors qu'un après-midi, il se frottait à je ne sais quel souvenir et se mit à réfléchir à la question de savoir ce qui était demeuré en lui de la fameuse morsure de la conscience. En lui, qui avait rangé le bien et le mal parmi les imaginations de l'homme et avait défendu avec colère son Dieu libre contre ces blasphémateurs qui prétendaient que Dieu n'agit que sous la raison du bien. Le monde, pour Spinoza, était revenu à cet état d'innocence où il se trouvait avant l'invention de la mauvaise conscience. Que devenait alors la morsure de la conscience? Une tristesse, accompagnée de l'image d'une chose passée dont l'avènement a trompé toute attente. Des milliers d'années durant, les malfaiteurs touchés par le châtiment n'ont eu, au sujet de leurs méfaits, d'autres impressions que celles dont parle Spinoza. Ici, quelque chose a mal tourné, de manière imprévue. Et non, je n'aurais pas dû faire cela. Les malfaiteurs se soumettaient au châtiment comme on se soumet à une maladie, à une calamité, ou bien à la mort, sans révolte, avec ce fatalisme courageux par quoi, aujourd'hui encore, les Russes l'emportent sur nous, occidentaux, dans les choses de la vie. S'il y avait alors une critique de l'acte, c'était la prudence qu'il exerçait. Il n'est pas douteux qu'il nous faut avant tout chercher l'effet du châtiment dans l'augmentation de la prudence, dans un développement de la mémoire, dans la volonté d'agir dorénavant avec plus de précaution, de méfiance, de mystère, dans la constatation qu'en beaucoup d'affaires, on est décidément trop faible, dans une espèce d'amélioration du jugement porté sur soi-même.
C'est donc le paragraphe 15 du deuxième livre de la généalogie de la morale que nous venons d'entendre, Paolo Diorio. Les hommes ont d'abord été, comme Spinoza, inaccessibles à la morsure de la conscience. Oui. L'expression est tout à fait parlante. La morsure de la conscience, c'est l'autre nom du remords, n'est-ce pas?
C'est exactement cela. Et c'est très intéressant parce que Nietzsche considère Spinoza comme un de ses précurseurs. Et même s'il n'a jamais lu directement l'éthique de Spinoza dans les textes, nous avons même un reçu d'achat d'un libraire, enfin un reçu d'envoi en vision, un libraire qui lui avait envoyé Spinoza au début des années 70 quand il était à Bâle, et lui avait dit non, merci, il l'avait retourné parce qu'il n'était pas intéressé. Mais à Sitz-Marien, l'été 81, il lit un manuel, finalement, d'histoire de la philosophie de Kuno Fischer, qu'il cite dans ce passage sur Spinoza, et qui est finalement une bonne explication de l'éthique, mais qui souffre de quelques incompréhensions. Et c'est intéressant de voir que le philosophe Nietzsche comprend le philosophe Spinoza mieux que son commentateur, tout n'ayant pas lu directement dans les textes. Mais donc il est étonné de quand il lit ce texte de Spinoza sur Spinoza, il est étonné, il dit c'est un précurseur. Nous sommes d'accord sur plusieurs points, surtout sur la question du libre arbitre, mais aussi sur l'ordre moral du monde que Spinoza nie. Et il y a des différences qui viennent de l'état différent de la culture et de la science. Mais sinon, nous sommes d'accord presque sur tout. Et alors, Nietzsche reprend même l'expression. Quand je parlais de l'ordre moral du monde, pour Spinoza, il n'a pas raison d'exister une différence entre bien et mal. Donc là aussi, une des causes des non-remords, avoir fait le mal, s'évanouit, disparaît. Et parce que pour Spinoza, Dieu est la nature. Et la nature est Dieu. Il a cette formule Deus sive natura, que Nietzsche reprend. Et pour lui, la nature n'est pas Dieu, mais c'est un chaos. Donc Nietzsche dit chaos sive natura. Mais dans les deux cas, ce qu'il manque sont les buts ultimes et l'ordre moral du monde. Et dans les deux cas, l'idée d'avoir mal agi vient à manquer.
C'est ce qu'il dit. Il faut changer l'expression. Je n'aurais pas dû faire cela par quelque chose à tourner de manière imprévue.
Exactement.
C'est une façon de se déresponsabiliser. Ça qui est difficile à entendre
oui,
aujourd'hui.
Oui, effectivement. Et c'est là que notre commentateur disait Spinoza a choisi la mauvaise expression. Parce que lui, Spinoza, est en train de décrire un fait de nature, on dirait, si on divise la nature de l'homme. En fait, de nature, les commentateurs disaient, Kuno Fischer disait, c'est comme les fermiers qui voient la grêle détruire son blé. Il dit, bon, quelque chose a mal tourné. Mais il ne dit pas, j'ai mal agi. Alors que, disait Kuno Fischer, nous, quand on utilise la morsure de la conscience, on sous-entend le fait d'avoir mal agi dans un sens moral. Et c'est exactement ce dualisme qu'est aussi bien Nietzsche que Spinoza veulent éliminer. La philosophie de Nietzsche, comme on disait à son temps, est une philosophie moniste, c'est-à-dire qui ne présuppose pas une division entre deux niveaux ontologiques, par exemple le monde et le monde du phénomène, le monde de la chose en soi, ou alors le monde de l'homme et le monde de la nature. Souvent on dit, oui, bien sûr, tout est nécessaire dans la nature, mais dans l'histoire, dans le royaume de l'humanité, nous avons la possibilité de décider ce que nous voulons faire.
Comme si l'homme était un empire dans un empire.
Comme l'homme, si c'était quelque chose de séparé par rapport à la nature. Et il y a des aphorismes de Nietzsche qui disent nous sommes une partie de la nature, quand même. Il me dit quand même en français, d'ailleurs, dans le texte. Et donc, ça n'a pas de sens. Il y a un autre exemple, par exemple, d'un autre philosophe qui ne croyait pas au libre arbitre, qui est Schopenhauer. Que Nietzsche, d'ailleurs, c'est le philosophe qui est à la base de la formation philosophique de Nietzsche. Nietzsche a été un disciple de Schopenhauer, donc la philosophie de Schopenhauer est très importante pour lui. Et Nietzsche est parfaitement d'accord avec Schopenhauer sur le fait que les libres arbitres et donc les remords n'existent pas dans le monde du phénomène. Mais Schopenhauer a ajouté, étant donné que nous avons des remords, cela veut dire que nous avons dû faire un choix quelque part. Non pas dans le phénomène, parce que dans le phénomène, tout est nécessaire. Donc, ça veut dire que nous avons fait un choix dans un monde, dans le monde de la chose en soi.
C'est-à-dire, en clair, que pour Schopenhauer, le remords prouve l'existence de la
Exactement.
Liberté. Puisque nous pouvons regretter, c'est donc que nous partons du principe que nous avons eu le choix et donc que cette liberté existe.
Prouve l'existence de la liberté, mais non pas dans le phénomène, parce que Schopenhauer dit tout est nécessaire, nous sommes. Mais nous avons choisi avant de rentrer dans les phénomènes. Nous avons choisi une individualité dans le monde des idées, aurait dit Platon. Et après, une fois choisi cette individualité, c'est ça notre faute originaire. Avoir choisi une certaine individualité, et si quelqu'un choisit l'individualité d'un voleur, après, il va faire être un criminel pendant toute sa vie, et il va les regretter pendant toute sa vie, mais il ne regrette pas ses actions qui sont nécessaires, il regrette son choix originaire, métaphysique, qu'il a fait avant de rentrer dans l'existence. Et Nietzsche, dans un aphorisme, l'aphorisme 39 du Maître Pumain, justement, on parlait de cet ouvrage tout à l'heure, il dit, bon, les remords, finalement, ce n'est pas quelque chose qui peut prouver l'existence d'une dimension métaphysique, parce que le remords, c'est quelque chose qui lui aussi est devenu, qui est immergé dans les devenirs. Il y a des personnes qui n'éprouvent pas de remords. Dans des époques différentes, on n'a pas prouvé des remords, donc nous ne pouvons pas l'utiliser pour prouver l'existence dans un monde métaphysique. Et là, Nietzsche commence une enquête psychologique, historique, ethnologique, on dirait, sur l'origine du remords et sur la fonction du remords dans différentes sociétés. Et il commence même une enquête sur l'origine de la conscience. Parce qu'on dit, c'est le remords de conscience, justement. Gewissensbiss, on dit en allemand. Donc c'est justement lié étroitement à la conscience. Mais alors, nous connaissons très bien la généalogie de la morale. La généalogie de la morale, c'est un ouvrage dans lequel Nietzsche, entre autres, retrace l'origine de la conscience.
Je considère la mauvaise conscience comme la profonde maladie dans laquelle l'homme devait sombrer sous la pression du plus radical de tous les changements qu'il ait vécu de manière générale. Le changement qui survint lorsqu'il se trouva définitivement prisonnier de l'envoûtement de la société et de la paix. Ce qui se produisit de toute nécessité pour les animaux aquatiques lorsqu'ils furent contraints soit de devenir des animaux terrestres, soit de périr, ce n'est pas autre chose qui arriva à ces demi-animaux adaptés avec bonheur à l'étendue sauvage, à la guerre, au vagabondage, à l'aventure. D'un seul coup, tous leurs instincts se trouvèrent dévalorisés et suspendus. Il leur fallait désormais marcher sur leurs pieds, et se porter eux-mêmes, là où auparavant ils étaient portés par l'eau. Une pesanteur effroyable les écrasait. Ils se sentaient gauches pour les besognes les plus simples, pour ce monde nouveau et inconnu. Ils n'avaient plus leurs anciens guides, les pulsions régulatrices guidant inconsciemment avec sûreté. Ils en étaient réduits à penser, conclure, calculer, combiner des causes et des effets, ces malheureux, à leur organe le plus pauvre et le plus exposé à la méprise. Je crois qu'il n'a jamais existé sur Terre un tel sentiment de détresse, un tel malaise de plomb. Et ces instincts anciens n'avaient pas pour autant cessé d'un seul coup de poser leurs exigences. Seulement, il était difficile et rarement possible de faire leur volonté. Ils devaient, pour l'essentiel, rechercher des satisfactions nouvelles et comme souterraines. Tous les instincts qui ne se déchargent pas vers l'extérieur se tournent vers l'intérieur. C'est cela que j'appelle l'intériorisation de l'homme. C'est seulement ainsi que pousse en l'homme ce que l'on appellera par la suite son âme. Tout le monde intérieur, originellement mince, comme enserré entre deux peaux, a grossi et est éclos, a gagné en profondeur, en largeur, en hauteur, à mesure que la décharge de l'homme vers l'extérieur a été inhibée. Les terribles remparts grâce auxquels l'organisation de l'État se protégeait contre les anciens instincts de liberté, les châtiments font partie au premier chef de ces remparts, produisirent ceci que tous ces instincts de l'homme sauvage, libre, vagabondant, se retournèrent, se tournèrent contre l'homme lui-même. L'hostilité, la cruauté, le plaisir pris à la persécution, à l'agression, au changement, à la destruction, tout cela se tournant contre le détenteur de tels instincts. Voilà l'origine de la mauvaise conscience.
Qui aurait cru que le vieil homme avait en lui tant de sang.
Vous avez entendu?
Le baron de Fife avait une femme. Où est-elle maintenant? Et quoi? Ces mains-là ne seront donc jamais propres? Plus de sang, monseigneur, plus de sang! Vous gardez tout avec vos frissons!
Allez, allez, vous avez appris des choses que vous ne devriez pas savoir.
C'est elle qui a dit des choses qu'elle n'aurait jamais dû dire. Dieu sait ce qu'elle a connu.
Et c'est bien l'odeur du sang. Elle dure. Tous les parfums de l'Arabie ne rendraient pas plus pure cette petite main.
Quel soupir, le cœur porte un poids douloureux.
Je ne voudrais pas avoir dans la poitrine un cœur pareil, pour tous les honneurs rendus à sa personne.
Bien, bien, bien.
Dieu veuille que ce soit bien, monsieur.
Cette maladie échappe à mon art. Cependant, j'ai connu des gens qui se sont promenés pendant leur sommeil et qui sont morts saintement dans leur lit.
Lavez vos mains. Mettez une robe de chambre. Je vous le répète encore. Banco est enterré. Il ne peut pas sortir de sa tombe.
Vraiment?
Au lit. Au lit. On frappe au portail. Donnez-moi votre main.
Ce qui est fait ne peut être défait. Oli.
Oli, ou hors du lit, ça dépend l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Nous parlons de remords aujourd'hui, le remords chez Nietzsche, en compagnie du philosophe Paolo Diorio. Et c'est Lady Macbeth qui va nous aider à comprendre le texte qu'on a entendu avant sur l'apparition de la mauvaise conscience. Ici, dans une mise en scène de Jean Villard en 1954, Lady Macbeth qui ne se lave jamais assez les mains pour enlever le sang qu'elle imagine s'être déposé sur ses doigts après avoir commandité le meurtre du roi pour que son époux puisse se trouver roi à la place du roi. On est ici dans cette oscillation entre le remords, la culpabilité, la mauvaise conscience. Est-ce qu'on peut faire la distinction entre les trois, Paolo Diorio?
Les remords, la culpabilité et la mauvaise conscience. C'est difficile de faire une distinction parce que finalement, on se réfère au même affect, c'est-à-dire à la conscience d'avoir agi mal dans le passé. Donc, il présuppose donc le fait d'être libre, d'agir mal, mais qui présuppose la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal, et qui présuppose donc l'idée d'une faute qui n'est pas une erreur qu'on a commise, qui n'a que de conséquences, je dirais, physiques. Non, c'est quelque chose qui va plus dans les profonds, qui a justement une connotation morale, qui met en jeu toute notre manière de vivre par rapport aux autres. Et donc, là, on comprend bien qu'il s'agit d'un instrument de contrôle social qui est mis en place, normalement par... Nietzsche fera toute une analyse du prêtre ascète comme celui qui met en place un certain nombre d'instruments psychiques, psychologiques, de contrôle, qui lui permettent d'imposer la loi de Dieu, hein, donc sa loi. Et les remords est un instrument parfois redoutablement efficace. Et on le voit dans ce passage de Shakespeare. On pourrait citer aussi les Richard III, la veille de la bataille de l'Est. Lui, il voit les fantômes des personnes qu'il a tuées pour accéder au pouvoir, qui reviennent le hanter avant la bataille. Et dans les deux cas, on voit comme le remords affaiblit la personne qui l'éprouve. Et justement, Richard III va mourir dans la bataille et Lady Macbeth va se suicider finalement. Donc parfois, ça marche de manière redoutablement efficace. Parfois, non. On a vu tout à l'heure dans le passage qu'on a écouté de Spinoza, et on pourrait citer aussi d'autres passages de Nietzsche, de la généalogie de la morale, mais aussi d'autres ouvrages, où on voit que les criminels, finalement, ne sont souvent pas touchés par les remords. Pour eux, les remords n'existent pas, et c'est la peine qui est bien plus efficace pour, comment dire, faire en sorte qu'ils ne continuent de commettre des crimes. Et dans la généalogie de la morale, dans les passages que nous avons écoutés, Nietzsche retrace l'histoire de l'humanité et fait voir ce passage entre une société qui était organisée sur les peines, où la conscience était quelque chose de très, très peu étendu. C'était juste une petite partie du monde cérébral de ces animaux qui étaient heureusement adaptés à leur environnement et qui réussissaient à vivre en société grâce, pour ainsi dire, à des règles et des peines associées à ces règles. Et puis tout d'un coup, il y a un passage que Nietzsche décrit en termes d'ethnologue. D'ailleurs, il s'y réfère, il utilise certains ouvrages de l'époque, de la fin du XIXe siècle, qui, en utilisant le darwinisme de l'époque, avait expliqué le passage des êtres, de ceux qui vont devenir les êtres humains, des animaux, finalement, d'un environnement aquatique à un environnement terrestre. Et lui, il reprend, c'est Wilhelm Ruh, qui est quelqu'un qui avait écrit un ouvrage sur la lutte des parties d'un organisme, qui expliquait ce passage. Et Nietzsche le reprend pour expliquer la naissance de la conscience. La naissance de la conscience, comme on a entendu le passage, comme quelque chose qui s'ouvre, un espace psychique qui s'ouvre au moment où les instants qui pouvaient se tourner vers l'extérieur, vers les autres, vers la société, se tournent vers l'intérieur.
Mais en prenant cet exemple, on a l'impression que Nietzsche assigne une cause biologique à l'apparition de la conscience. C'est l'évolution biologique qui a produit la conscience, et pas du tout le christianisme ou la mauvaise conscience.
Non, le christianisme utilise, dans la deuxième dissertation, il retrace cette origine de la conscience et il parle d'une histoire animale. Dans la troisième dissertation, il dit « Voyons maintenant comment les prêtres ascètes et en général les élites dominantes ont utilisé cet espace qui s'était ouvert pour à défendre des contrôles, justement pour introduire dans cet espace qui était devenu plus grand, introduire des notions comme justement le remords, et qui ont ensuite provoqué un cercle vicieux à l'intérieur de la manière de penser des hommes qui les a enfermés dans ce cercle vicieux de faute, remords, châtiment, et qui ne libère jamais.
Mais alors, qu'est-ce qui a provoqué cet espace libre dans lequel s'est engouffrée la mauvaise conscience, si ce n'est justement la liberté ?
Cet espace libre, selon Nietzsche, a été provoqué par le fait qu'un certain nombre d'animaux humains, mi-chemin, se sont retrouvés dominés par d'autres animaux plus forts qui les ont comme incarcérés dans une série de règles, en leur empêchant de décharger leur instinct animaux vers l'extérieur. Et on l'a entendu dans les passages qui a été lu, et à un certain moment, ils ont dû reverser leur cruauté, finalement, vers eux-mêmes. Et c'est ça, c'est l'animal qui est mis dans une cage et qui, se tourmente lui-même, qui provoque l'apparition de cet espace. Après, on pourra utiliser cet espace pour différentes choses. Il y a un principe capital des méthodologies historiques que Nietzsche énonce dans la généalogie de la morale et qu'il faudrait utiliser vraiment plus souvent, je pense. Il dit il n'y a jamais une seule explication. La forme est fluide, mais les sens qu'on donne aux formes qui s'est créées pendant l'évolution de l'histoire sont encore plus fluides. Donc, quelque chose qui est né dans un certain contexte est réinterprété dans un autre contexte.
Mais ça veut dire que le remords et la dénonciation que propose Nietzsche du remords ne vise pas à s'en prendre uniquement au christianisme, à une forme de culture qui aurait dénaturé l'homme et l'affaiblirait, hein, vous l'avez dit, c'est ce terme qui est important, c'est pour ça que le remords pose un problème à Nietzsche, c'est qu'il affaiblit l'homme, mais c'est qu'il a une origine quand même biologique, et en réalité ce à quoi Nietzsche appelle, c'est une espèce de dépassement de cette évolution biologique qui a pu conduire à l'apparition de la mauvaise conscience chez l'homme.
Un dépassement, c'est le mot approprié, qui n'est pas veut dire revenir à l'état originaire.
Ah bah non, au contraire.
Voilà, parce que parfois on a des interprètes qui nous disent « Ah, vous voyez, Nietzsche veut revenir à la blonde bête originaire, et c'est très extra. » Pas du tout. Il est en train de faire une généalogie, il retrace donc l'histoire, mais il veut aller en avant. Oui, c'est impossible. Il dit même une formation régressive est complètement impossible. Il faut aller en avant. Et donc, utiliser ces espaces qui ont été créés en cours de l'évolution d'une manière différente. Et rendre la liberté à l'homme. La liberté qui est liberté, par contre, de la conscience, de la connaissance du fonctionnement de ces systèmes, qui nous permet non pas de revenir à un état originaire dans lequel nous n'avons plus de conscience, mais d'utiliser notre conscience d'une manière qui ne nous affaiblit pas les forces de l'humanité. Donc, dépasser l'idée du remords, reconnaître que nous ne sommes pas libres, et inventer des moyens de cohésion sociale qui ne soient pas basés sur cet affect, les remords, qui affaiblit et tourmente les personnes, les pousse parfois au suicide. Passer donc, comme on disait au début, d'une humanité morale à une humanité sage.
Ne jamais donner libre cours au remords, mais se dire tout de suite, ce serait là ajouter une seconde bêtise à la première. Si l'on a fait du mal, il faut songer à faire le bien. Si l'on est puni à cause de sa mauvaise action, il faut subir sa peine avec le sentiment que par là on fait une chose bonne. On empêche, par l'exemple, les autres de tomber dans la même folie. Tout malfaiteur puni doit se considérer comme un bienfaiteur de l'humanité.
J'ai tué la vieille pour la voler.
Tu avais 20 000 francs sur toi. Tu les as donnés pour rien. Tu n'es pas un voleur.
Alors je l'ai fait pour protester. Oui, c'est ça, pour protester. Je ne pouvais pas admettre tant d'injustice. Alors j'ai voulu protester par un geste héroïque.
Tu es une vieille femme qui ne pouvait pas se défendre.
Bien sûr. Ce n'est pas ça. Mais alors je l'ai fait par lâcheté. Tout comme un autre, j'aurais pu continuer mes études. Je sais pas, moi, en donnant des leçons, en faisant des traductions. Et pourtant, je n'ai pas touché à cet argent. Ni aux bijoux. Et je ne pourrai jamais. Non, ça doit être autre chose. Il est évident que je pourrais dire que j'ai voulu sauver une sœur que j'aimais trop, mais ce serait émouvant. Et ce n'est pas ça non plus. Peut-être que je suis fou. Non. Mais j'étais seul. Mon imagination allait dans tous les sens. Lily, j'ai tué cette femme pour des raisons très claires. J'ose dire des raisons irréfutables. Je ne les connais plus. J'essaie d'expliquer, je ne peux pas. Pour tuer, il faut être au moins deux. Celui qui tue et celui qui doit mourir. L'assassin sait pourquoi il vient, hein? Pourquoi il frappe. Mais l'autre vient tout brouiller avec ses yeux, avec son sang. Et le crime devient aussi l'affaire de celui qui meurt. Et dans les détails affreux, ma ligne toute droite, toute simple, je l'ai perdue. J'ai tué la vieille et je sais plus pourquoi.
Le châtiment ne favorise pas le remords, mais endurcit le cœur, nous dit Nietzsche, hein, toujours dans la généalogie de la morale, Paulo Diorio. On vient d'entendre un extrait de Crime et châtiment de Dostoïevski, ici l'adaptation par Georges Lampin de 1956. Celui qui tue la vieille, comme il dit, par nécessité en un sens, mais aussi par liberté, il avait le choix de ne pas la tuer, il la tue sans pouvoir dire pourquoi, c'est le sens de l'extrait, il ne peut pas expliquer vraiment, l'explication n'épuise pas l'acte. Eh bien, ce criminel représente un exemple particulier peut-être de mauvaise conscience ou de remords, mais Nietzsche nous dit bien que, enfin, c'est ce que naturellement on serait enclin à penser, mais Nietzsche dit que non, justement, le criminel n'est pas celui qui illustre le mieux le remords. Au contraire, finalement, celui qui passe à l'acte n'est pas pris de remords, mais plutôt encouragé dans son geste. C'est ce qu'il appelle, ce qu'il entend par l'expression de endurcir le cœur.
Oui, parce que les criminels voient, ils expérimentent, ils sur sa peau même, ils voient que les bons, c'est-à-dire les apparats de l'État, les policiers qui essayent de les trouver, de les traquer et de le condamner, ils utilisent finalement les mêmes moyens que lui, il a utilisés pour commettre son crime. Et donc, il ne voit pas tellement, il expérimente vraiment qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les moyens utilisés par les bons et les moyens utilisés par lui, qui est les mauvais. Et donc, il n'arrive pas à prouver du remords parce qu'il n'a pas l'expérience de la différence entre des sentiments et des actions qu'on considère bonnes et des actions qu'on considère mauvaises. Et lui, il voit uniquement que quelque chose s'est mal tourné dans l'action qu'il a fait et que finalement, il faudra pour l'avenir être plus attentif pour ne pas être traqué, justement, pour ne pas courir dans des problèmes avec la justice. Mais c'est tout. Donc là, on voit que finalement, ce système qui a été mis en place au cours de l'histoire pour induire certains comportements et en décourager d'autres, les remords, j'entends, ne fonctionne pas toujours. Quand il fonctionne, il provoque des désastres psychiques, des suicides, des cercles vicieux dans lesquels on ne peut pas sortir. Et parfois, par contre, quand on voudrait le faire fonctionner, parce que c'est vraiment les cas les plus frappants, on voudrait pouvoir contrôler des actions criminelles par les remords et empêcher ainsi qu'elles se reproduisent, ne fonctionne pas. D'où le problème qui se pose aux philosophes, les philosophes qui disent de toute façon il faut refonder notre culture juridique parce qu'on ne peut pas juger et punir sur la base du libre arbitre. Mais alors sur quelle base? On ne peut pas utiliser les instruments du remords et de la morale pour empêcher des actions criminelles, mais alors sur quelle base devons-nous fonder le droit? Sur quelle base pouvons-nous empêcher des actions que nous jugeons nuisibles pour la société? Et il y a plusieurs réponses de Nietzsche à ces questions que Nietzsche évoque et qui se posent à tout philosophe, qui prend conscience du fait que les fondements du droit sont à revoir pour cet aspect. Et Nietzsche esquisse plusieurs solutions au cours de sa philosophie. Et il y a des solutions parfois utopiques, qu'on pourrait dire utopiques, mais tout est utopique chez Nietzsche, parce qu'il se pose dans une perspective tellement de longue durée parfois, aussi bien vers le passé que vers l'avenir, qu'on a du mal à utiliser le mot utopique. C'est tout simplement, comment dire, c'est quelque chose qui va au fond, qui nous permet de comprendre mieux certains aspects et d'imaginer des formes d'existence auxquelles nous n'avons jamais pensé. Et par exemple, il y a un très bel aphorisme d'Aurore intitulé c'est difficile, c'est Zur Pflege der Gesundheit, c'est-à-dire pour l'entretien de la santé.
De la santé.
Et c'est dans la foyer dans laquelle il est réfléchir sur comment on pourrait traiter les criminels. Il dit, je ne sais pas si nous pouvons en lire un morceau.
Il dit ceci, hein, donc c'est le paragraphe 202 d'Aurore, n'est-ce pas?
Oui, exactement.
Il dit...
Soins à donner à la santé. On a à peine commencé à réfléchir à la physiologie des criminels, et cependant on se trouve déjà devant l'impérieuse certitude qu'entre les criminels et les aliénés, il n'y a pas de différence essentielle, à condition que l'on tienne la façon de penser courante en morale pour la façon de penser propre à la santé spirituelle. Nulle croyance n'est aujourd'hui si bien admise que celle-ci. Il ne faudrait donc pas craindre d'en tirer les conséquences et de traiter le criminel comme un aliéné. Surtout, ne pas le traiter avec une charité hautaine, mais avec une sagesse et une bonne volonté de médecin. Il a besoin de changement d'air et de société, d'un éloignement momentané, peut-être de solitude et d'occupation nouvelle, parfait. Peut-être trouve-t-il lui-même que c'est son avantage de vivre pendant un certain temps sous surveillance, pour trouver ainsi une protection contre lui-même et un fâcheux instinct tyrannique, parfait. Il faut lui présenter clairement la possibilité et les moyens de la guérison, d'extirper, de transformer, de sublimer cet instinct, et aussi, au pis-aller, l'invraisemblance de celle-ci. Il faut offrir au criminel incurable qui se fait horreur à lui-même l'occasion de se suicider.
Je vous dis, on est dans une expérimentation possible de comment traiter la déviance, finalement, les criminels. Ils commencent par dire que les criminels, c'est un aliéné, donc qu'il faut les traiter, il faut les soigner. Il faut les soigner, non pas en les mettant en prison, mais en lui donnant de l'air, en lui changeant ses conditions de vie, en le faisant vivre dans des contextes différents qui empêchent finalement de reproduire ce qu'il avait
fait. Parce qu'il pense que la punition est inefficace.
La punition est absolument inefficace.
Punir quelqu'un d'un geste qu'il a commis.
Surveiller et punir, ça ne marche pas.
Ça ne marchera
pas. Pour
lui,
ça ne marchera pas, il faut quand même traiter. C'est une question de la Gesundheit, de la santé. Il y a un problème de santé. Traitons les. Alors, vous savez, c'était l'époque, après, il y aura Lombroso en Italie qui vous dira les délinquants, c'est un malade, et donc il faut faut pas les soigner, il faut quand même les mettre dans une prison ou dans un asile. Et Nietzsche, tout au contraire, il dit effectivement, il faut les soigner, dans une manière qui est. Et il continue dans l'aphorisme, il dit bon, parfois, on peut même arriver à dire que lui, il est rentré désormais dans une. Configuration dans laquelle il n'arrive pas à sortir et à la limite on favorise les suicides. Vous voyez les degrés d'audace et d'utopie finalement de Nietzsche, mais quand même qui porte aux extrêmes conséquences. Mais sinon, il continue dans cet aphorisme, il dit que par exemple nous traitons les infirmes, nous dépensons beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources pour faire guérir ou pour faire survivre les infirmes. Et lui, il dit, pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose avec les criminels? Et il arrive à juger les degrés de santé d'une société à partir du nombre des parasites qu'elle peut entretenir, soigner et faire vivre. Donc vous voyez que, ouvrir cette réflexion sur les remords nous pousse à imaginer des manières, des stratégies sociales pour faire vivre même les personnes déviantes, même les personnes malades, même les aliénés, de manière cohérente, de manière organique à l'intérieur d'une société.
C'est-à-dire
qui est jugée à partir de là, les degrés de santé d'une société.
C'est donc il faut évacuer complètement la question de la morale. En évacuant la question du remords, c'est la morale elle-même qu'on évacue, qu'on dissocie de celle de la justice. Et en identifiant le criminel à un malade, Nietzsche rabat ces réflexions-là sur la seule question de la santé, de la bonne santé ou de la mauvaise santé, et donc qui est quand même la dimension, justement, la moins morale de l'existence.
Oui, on trouve des moyens autres qui vont à l'encontre de ce que nous connaissons des conditions de vie physiologiques. Lui, il utilise beaucoup le terme physiologique qui était utilisé à l'époque, mais qui veut dire tout simplement bonne manière d'exister et de maintenir la force vitale au lieu de la baisser, comme ça a été le cas pour... d'autres manières de vivre, inspirées davantage à la morale, et trouver toute une série de solutions alternatives basées, comme vous voyez, sur la physiologie, sur la biologie, mais qui portent finalement des conséquences tout autres par rapport à ce qu'on s'imagine quand on dit il faut avoir de l'éugénétique ou il faut considérer qu'on traite les personnes d'un point de vue biologique et ça entraîne des conséquences épouvantables.
Alors comment faire du point de vue de Nietzsche justement pour que cette analyse de la mauvaise conscience, cette dissolution du remords dans des problématiques qui seraient davantage de l'ordre physiologique que moral, puisse permettre la naissance ou la venue d'un homme qui lui-même ne serait pas empris de remords? Il y a cette question de l'avenir qui peut-être n'existe pas, mais qui justement est une façon de dessiner une possibilité pour l'homme de vivre autrement que ce que Nietzsche constate.
Mais ce que Nietzsche nous invite à faire, qui fait, lui, c'est-à-dire imaginer de nouvelles formes d'existence. C'est une constante de la philosophie de Nietzsche. Il nous invite à imaginer. Alors j'ai dit à imaginer parce que parfois, on reste sur sa fin, parce que lui, il nous ne dit pas ce qu'il faut faire. Il nous le dit, là, par exemple, je vais vous donner un exemple, il nous le dit souvent, mais encore davantage, il nous dit qu'il faut trouver, nous, nos solutions à nous. Mais pour trouver des nouvelles solutions, il faut prendre conscience, finalement, que la manière dans laquelle nous avons vécu jusqu'à maintenant présente, des problèmes. Et donc, nous dire qu'il n'y a rien qui soit, métaphysiquement, religieusement fixé une fois pour toutes, et que nous devons prendre finalement dans nos mains notre destin, Et là aussi, on peut, quand Nietzsche parle par exemple du surhomme, c'est dans cette direction qu'il faut aller. C'est-à-dire, non pas imaginer que lui, il décrit ce que le surhomme doit être ou que le surhomme va venir nécessairement, etc. C'est juste une manière de dire, il faut inventer de nouvelles possibilités de vie qui puissent, par contre, rendre la vie sur la Terre plus digne d'être vécue selon les critères que nous voulons nous-mêmes nous donner. Et non pas selon des critères qui existeraient depuis toujours ou qui seraient placés dans une dimension métaphysique. Et donc, les remords ont été un moyen que nous avons choisi pendant une certaine phase de notre histoire qui a des conséquences mauvaises que Nietzsche détestait. On le voit vraiment à partir de plusieurs textes qui vraiment, il considérait les remords comme quelque chose de honteux. Et la perspective se dégage. La voie s'ouvre pour inventer de nouvelles possibilités de vivre ensemble sans devoir accabler les autres avec la question du remords, de la mauvaise conscience, de la culpabilité.
N'y aurait-il pas moyen d'aller au-delà de tout cela? Combien serait allégé le sentiment général de la vie si, avec la croyance en la faute, on pouvait se débarrasser aussi du vieil instinct de vengeance? Et si l'on considérait que c'est une subtile sagesse des hommes heureux de bénir ses ennemis, comme fait le christianisme, et de faire du bien à ceux qui nous ont offensés. Éloignons du monde l'idée du péché, et ne manquons pas d'envoyer à la suite l'idée de punition. Que ces démons en exil aillent vivre dorénavant ailleurs que parmi les hommes, s'ils tiennent absolument à vivre et à ne pas mourir de leur propre dégoût. Un grand merci à vous, Paolo Diorio, d'être venu nous parler de Nietzsche aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Et du remords auquel il faut faire la peau, hein, nous dit Nietzsche. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous dirigez l'Institut des textes et manuscrits modernes de Nietzsche et vous avez écrit Le voyage de Nietzsche à Sorrente, Genèse de la philosophie de l'esprit libre aux éditions du CNRS. Et vous allez faire paraître bientôt un livre sur l'éternel retour de l'identique chez Nietzsche. On a hâte de vous lire. Et on laisse la parole à Nina Simane et à l'homme pêcheur Cinnamon.
Merci, je n'aurai pas de remords d'avoir participé à cette
aucun
transmission.
Aucun regret. Merci à vous, Palodia. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Hot me, Lord, all on them day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God, all on them day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river, it was bleeding, I ran to the sea. It was bleeding, I ran to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river, it was boiling, I ran to the sea. It was boiling, I ran to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. les nouveaux chemins de la connaissance, c'est fini pour aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine riche en émotions, après la sobriété, l'ivresse et le remords. Demain, les émotions démocratiques, et ce sera la philosophe Martha Nussbaum qui viendra nous en parler, enfin qui viendra en duplex depuis Chicago, avec qui je discuterai sur donc les émotions démocratiques. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y retrouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour, et puis vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Nouveaux Chemins vous donne rendez-vous sur leur compte Facebook et Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. L'équipe des Nouveaux Chemins, j'ai plaisir à le rappeler, c'est Ariane Mintz, Pierre Brossard, Antoine Ravon, Marianne Chasseur, Olivier Bétard à la réalisation, Élise Le et Julien Douminc à la prise de son aujourd'hui. Sur France Culture à 11h, vous retrouverez Culture Monde, mais tout de suite, c'est l'heure de retrouver votre feuilleton quotidien, La Vie Moderne.